Bienvenue à l'écoute de cette 30e et avant-dernière émission de la saison. Olivier au micro. Vous l'aviez compris, vous êtes à l'écoute d'Alter Echo. Alter Echo, c'est tous les mercredis soirs à 22h. C'est rediffusé tous les vendredis après-midi à 14h. Il y a un site internet, www.multimania.com/alterecho, en un seul mot et avec CH. Et vous pouvez également écouter en direct via le site de Campus. Aujourd'hui, nous allons évidemment parler de toutes les protestations et violences qui ont eu lieu autour de la visite de George Bush d'une part et du sommet européen de Göteborg d'autre part. Le traitement qu'a réservé la presse à ces deux types de manifestations est assez différent. Ensuite, nous reparlerons du journal du samedi, le petit hebdo dérangeant qui avait disparu à la fin de l'année dernière. Ses deux fondateurs, Michel Bouffioux et Laurent Arnaud, se battent toujours pour sa reparution. Et devant la mauvaise foi manifeste du monde politique, ils se sont aujourd'hui dotés de l'arme atomique. Laurent Arnaud nous expliquera de quoi il s'agit. Et enfin, quelques nouvelles de l'île au soleil, le squat artistique de la rue des Chevaliers à Ixelles. Une première tentative d'expulsion a échoué la semaine dernière. Nous en parlerons avec l'un des habitants du squat. Une grande première, voilà comment les journaux qualifiaient la semaine dernière le voyage officiel du fils Bush en Europe. Grande première, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque c'était non seulement le premier voyage à plusieurs étapes de la présidence de George W., mais c'était aussi la toute première fois de sa vie que le président cow-boy quittait l'Amérique du Nord. Les seules fois qu'il était sorti des États-Unis auparavant, c'était pour aller au Mexique et au Canada. Pour cette première, l'Europe a mis les petits plats dans les grands et a très chaudement accueilli W partout où il est allé, ou presque. Tout un éventail d'ONG avait appelé à manifester contre les désastreuses options politiques du nouveau gouvernement américain. Qu'il s'agisse du bouclier antimissile, du refus de ratifier le protocole de Kyoto sur les émissions de gaz à effet de serre, de l'application de la peine de mort ou de la politique énergétique, l'Europe et l'équipe Bush ne sont décidément d'accord sur rien. À Bruxelles, 2000 personnes ont manifesté devant l'ambassade américaine la veille de l'arrivée du président et ils étaient quelques centaines pour l'accueillir le lendemain devant l'entrée de l'OTAN à Evere. La presse a d'ailleurs largement répercuté tous les griefs de ceux qui étaient descendus dans la rue et leur a gentiment laissé la parole pour tout expliquer en détail. Parmi les opposants à Bush qui s'étaient rassemblés devant l'ambassade américaine à Bruxelles, on trouvait même des Américains qui portaient de petits panneaux avec des slogans comme « Désolé l'Europe, mais nous non plus, nous n'avons pas voté pour lui ». Dans le soir, pourtant, la correspondante à New York affirmait que la méfiance européenne face à Bush est, je cite, « un motif de surprise pour l'Amérique ». Qu'il a élu de justesse et qui découvre avec irritation que la séduction de son héros du conservatisme du cœur n'opère pas sur l'autre rive de l'Atlantique. Apparemment, l'Amérique serait plutôt divisée sur ce coup-là. Écoutez plutôt cette Américaine qui manifestait à Bruxelles la semaine dernière.
I was born in Pennsylvania. I moved to the Netherlands about 4.5 months ago, 2 days before Bush took office, and it was no accident. He's not my president. He was appointed to the presidency. He was not elected. He was not selected by the American people, and he does not represent our views. Pretty much wherever he goes, there's a demonstration somewhere. There's, from what I understand, there's almost a constant protest outside the White House and UN buildings, and now I'm not there to see it, but that's what I understand, yes. The American people don't like him.
But almost half of them voted for him.
But less than half, and which means he should not be there.
Pour ceux qui n'auraient pas compris dans le texte, je résume. En clair, cette jeune femme a quitté son pays 2 jours avant l'installation de Bush à la Maison-Blanche pour se réfugier aux Pays-Bas. Pour elle, Bush n'a pas été élu, mais plutôt désigné. Il aurait dû perdre l'élection, puisqu'il a obtenu moins de voix qu'Al Gore. Et beaucoup d'Américains pensent comme elle, puisqu'il paraît que devant la Maison-Blanche et partout où le petit Bush se déplace, les manifestations sont permanentes. Cette dernière information se confirme d'ailleurs en furetant un peu sur Internet. Apparemment, depuis le 20 janvier dernier, date où Bush a été intronisé, il y a eu plusieurs centaines de manifestations contre le trucage de l'élection. Dans les semaines qui ont suivi le résultat officiel, plusieurs journaux américains se sont amusés à recompter les voix dans les comtés incertains de Floride. Il s'avère que Bush avait effectivement perdu non seulement le vote populaire, mais aussi ses fameux comtés décisifs. Seulement, une fois que Bush avait été désigné président par la Cour suprême, la presse américaine a fait bloc derrière le nouveau chef. Pendant les interminables recomptages officiels des bulletins de vote, les médias faisaient évidemment leur chou gras de cette situation cocasse et absurde, mais après ça, ils ont sifflé la fin de la récré. Bush avait gagné un point, c'est tout. Les résultats des recomptages privés effectués par certains journaux ont donc été quelque peu occultés, tout comme les manifestations qui ont suivi et qui ont d'ailleurs toujours lieu quotidiennement ou presque. Le jour de l'inauguration de Bush, par exemple, le New York Times avait fait tout son possible pour minimiser la présence de 20 000 manifestants anti-Bush et ne parler que des aspects festifs et officiels de la cérémonie. Aujourd'hui, la presse américaine garde la même attitude et ne parle pas de la contestation qui se poursuit. Récemment, les choses se sont encore envenimées. Lors d'une récente visite du président en Floride, dans un stade, quelques contestataires du troisième âge ont été menottés, brutalisés et emmenés au poste parce qu'ils portaient, au milieu d'une foule acquise à son président bien-aimé, des petits panneaux avec des slogans anti-Bush. Dans un pays où la liberté d'expression est une religion et où la Ligue des droits de l'homme entame des procès en faveur de la liberté d'expression des néo-nazis qu'elle déteste pourtant, de telles pratiques en disent long sur l'évolution des mentalités. Mais revenons à nos moutons. Après Bruxelles, Bush s'est donc envolé pour aller serrer la pince au chef d'État de l'Union européenne à Göteborg où commençait le sommet européen qui marquait la clôture de la présidence suédoise avant le passage officiel du témoin à la Belgique le 4 juillet prochain. À Göteborg, ils étaient 25 000 pour manifester contre Bush, mais c'était de la triche puisqu'ils venaient de toute façon manifester contre l'Europe à partir du lendemain. Parlons-en de ces manifestations-là. En définitive, la presse a fort peu parlé de ce qui s'était passé au sommet officiel et beaucoup par contre des scènes de violence qui ont secoué la deuxième ville de Suède. La une des journaux était monopolisée par des titres comme « Émeute au sommet » ou « Sommet européen de la castagne ». Comme le disait le soir, entre autres, on retiendra davantage la violence du sommet de Göteborg que les petits pas vers une Europe élargie. Et c'est en partie grâce aux médias eux-mêmes. Lorsqu'il s'agit de montrer la violence, ils sont postés aux premières loges. Par contre, lorsqu'il s'agit de l'analyser avec intelligence, ils sont aux abonnés absents et pour cause. Pour commencer, une mise au point. Il ne s'agit pas du tout ici de justifier quelque violence que ce soit. La violence en général est déplorable et elle ne l'est pas moins dans le cadre de manifestations, si légitimes soient-elles. Tant qu'il n'y a que de la casse matérielle qui se limite souvent aux vitrines des banques et des McDonald's, la violence n'a rien de choquant, elle est juste stupide. Elle sert en somme à calmer les frustrations des casseurs, mais aussi paradoxalement à faire tourner un peu l'économie capitaliste que ces mêmes manifestants détestent tant. Tout ce qui est cassé doit être remplacé, ça fait tourner l'économie et ça augmente le PNB. En plus, la casse est remboursée par les compagnies d'assurance, donc les banques et les McDo auront eu à subir tout au plus quelques jours d'inconfort. Par contre, quand il y a des blessés, la situation mérite une analyse un peu plus approfondie. En l'occurrence, les Suédois voulaient faire autrement que les Français à Nice, où il y avait déjà eu quelques échanges musclés. Les Suédois ont une culture du dialogue et du compromis, et donc tout allait se passer dans le calme. Ils ont souhaité la bienvenue aux manifestants, ils ont mis à leur disposition une école pour l'organisation et l'hébergement. Voilà pour la façade. Seulement, cette belle ouverture n'a pas duré longtemps, puisque dès le premier jour, sans raison apparente, la police a fait le blocus de l'école en question. 250 personnes étaient bloquées à l'intérieur et le désordre pouvait commencer à l'initiative des forces de l'ordre. Voilà ce qu'on appelle de la provocation gratuite. Dans des circonstances comme celle-là, une seule étincelle suffit. Une infime minorité vient là pour casser et ils casseront. Une écrasante majorité, elle, vient là pour manifester. Et dès qu'il y a de la casse, c'est eux qui se cassent. Et puis entre les deux, il y en a quelques centaines qui viennent manifester avec force et avec rage. Si on ne leur fait rien, ils seront juste bruyants. Si on les provoque, ils se mettent à casser avec les autres. La violence est contagieuse et ça, les flics en savent quelque chose. Donc la thèse des vilains casseurs qui prennent en défaut les gentils Suédois qui leur tendaient la main s'effondre. D'autant plus que plusieurs témoins ont affirmé avoir vu des casseurs qui franchissaient sans aucun problème les lignes des policiers. Un type se met à casser, d'autres le suivent et ensuite le premier casseur se réfugie sans difficulté derrière les cordons de police. Un scénario bien suspect qu'on avait déjà vu à Prague, preuve à l'appui, et Amnesty International est en train d'analyser en profondeur s'il y a eu, oui ou non, des policiers déguisés en casseurs qui provoquaient des actes de vandalisme. Il ne serait en effet pas incroyable que les violences soient sciemment provoquées par les forces de l'ordre. Comme le précisent des manifestants cités par la Libre Belgique, les casseurs anéantissent la réputation et les messages des manifestants. S'il n'y a pas de casse, les médias vont automatiquement se focaliser sur ce que les manifestants ont à dire, ce qui n'a pas du tout été le cas à Göteborg. En plus, si tous les contre-sommets deviennent violents, ça va décourager pas mal de manifestants pacifiques qui non seulement ont envie de rentrer chez eux en bon état, mais qui ne veulent de toute façon pas être associés à des violences. Paradoxalement, le mouvement est donc plus facile à contrôler s'il y a des violences, parce qu'il se discréditera et se dégonflera de lui-même. Pour clôturer ce chapitre sur la violence, il faut évidemment parler des coups de feu qui ont été tirés sur des manifestants. Évidemment, tout le monde en a parlé, mais aucun média ne semblait vraiment horrifié et tous ont goulûment avalé les couleuvres que leur tendait la police suédoise. Alors que tout le monde a clairement vu sur les images télévisées que le policier en question avait tiré sur un manifestant qui fuyait après avoir lancé une pierre qui a manqué sa cible, la Libre Belgique affirme avec candeur que le flic a dû employer son arme pour protéger une de ses collègues. Un reflet fidèle de la version officielle qui est aussi rapporté par Le Soir, qui précise que les coups de feu ont été tirés vers des casseurs qui tabassaient un policier à terre à coups de barre de fer. Aucune trace de tout ça sur les images qui montrent un coup de feu dans le dos d'un fuyard à quelques mètres de distance. Le Soir a tout de même le bon goût de préciser qu'il s'agit là de la version officielle. Au-delà de la nature, violente ou non, des manifestations, il faut aussi s'interroger sur les motivations qui poussent tant de gens à descendre dans les rues. Et là, nos médias sont scandaleusement en reste. Pas question de critiquer l'Union européenne et toutes les contorsions sont dès lors bonnes pour expliquer le mécontentement sans égratigner les dirigeants européens. On notera au passage que quand il s'agit de Bush, toutes les critiques sont permises, alors que quand on parle de l'Europe, c'est différent. Le discours est à peu près le même dans Le Soir et dans La Libre. L'Europe, en fait, n'a qu'un problème, c'est la communication. Sur le fond, tout va bien, ou à peu près, mais le message ne passe pas. Les dirigeants européens ne font pas assez d'efforts pour expliquer l'Union européenne. Si tout le monde comprenait bien, il n'y aurait pas de vrai problème. Si l'Europe a un problème de démocratie, c'est uniquement celui-là. Elle ne communique pas assez avec ses citoyens. Pourtant, une semaine auparavant, on avait clairement pu voir où en est réellement la démocratie au sein de l'Europe. Comme chaque traité européen, le traité de Nice, le dernier en date, doit être ratifié par les États membres. En Irlande, cette ratification passe par un référendum, c'est la loi. Et manque de bol, les Irlandais ont voté contre le traité de Nice. Immédiatement, les dirigeants européens ont fait fi de cette expression démocratique en disant tant pis pour les Irlandais, l'Union s'élargirait malgré eux. Le Premier ministre irlandais est même venu leur faire des excuses en leur assurant que c'était une erreur de parcours, qu'il allait organiser une vaste campagne d'information suivie d'un nouveau référendum et que cette fois, son peuple voterait comme il faut. Dans Le Soir, on parle même d'un référendum raté uniquement parce qu'il n'a pas donné le bon résultat. Et dans son édito, Martine Dubuisson estime que cet avatar avec les électeurs irlandais renvoyés aux urnes pour « bien voter » entre guillemets, donne une mauvaise image de l'Europe, mais ce n'est donc qu'une question d'image. Dans Matin Première sur la RTBF, même topo, je cite « Le vote des Irlandais est respectable, mais ce n'est pas le bon ». Voilà comment Anne Blanpin résume la position des ministres européens des Affaires étrangères. Dans sa chronique, elle le constate, mais ne s'en offusque pas outre mesure. Cependant, la palme du cynisme va à un politicien, Guy Verhofstadt, qui commentait la décision de lancer en Irlande un forum national de discussion sur l'Europe avant d'organiser un nouveau référendum. Pour lui, cette stratégie permettrait d'éviter de tomber dans une attitude arrogante envers la population irlandaise qui a donné son opinion. Sauf que cette opinion n'était pas la bonne. Pour ce qui est d'éviter l'arrogance, on repassera. Après un tel déni de démocratie, on comprend mieux pourquoi c'est dans la rue que les manifestants viennent se faire entendre et on est d'autant plus choqué par le commentaire du Premier ministre suédois qui estimait que ce qui est arrivé à Göteborg est une remise en cause de la démocratie. C'est celui qu'il dit qui y est. Je vous avais parlé à la fin de l'année dernière des difficultés croissantes du journal du samedi, anciennement journal du mardi, un petit hebdo indépendant et dérangeant qui avait beaucoup de mal à survivre, notamment faute de rentrées publicitaires. La parution est suspendue depuis plus de 6 mois, mais les fondateurs, Michel Bouffioux et Laurent Arnaud, ne renoncent pas pour autant. Laurent Arnaud nous explique tous ses déboires avec la communauté française, à qui il demande depuis des mois une aide à la presse à laquelle son journal a droit. Pas besoin d'introduction, tout est dans l'interview et c'est plutôt surréaliste.
C'est au mois de novembre que nous avons pris contact avec la communauté française, donc avant la suspension de parution, pour dire que nous souhaitions avoir un complément d'aide à la presse pour l'année 2000, parce que nous n'avions reçu préalablement que 2,5 millions, à comparer parfois plusieurs dizaines de millions que reçoivent d'autres groupes. Et donc, surtout que notre chiffre de vente le justifie amplement, puisque nous avons quand même fait une moyenne de 12 000 ventes la première année, ce qui est le double de l'instant, par exemple. Donc, c'est quand même très significatif.
Et on extrapole ce chiffre à 30 000 lecteurs aussi.
Tout à fait. Donc, nous avons adressé cette demande à la communauté en novembre, en disant que, bon, si nous n'avions pas ce complément d'aide à la presse, qui était en fait justifié par la faiblesse de nos recettes publicitaires, nous ne pourrions continuer à assurer la parution. Malgré ça, le gouvernement de la communauté a refusé en disant que le dossier serait rouvert à condition que nous présentions un plan de relance qui soit crédible et qui prévoit notamment l'apport de capitaux privés nouveaux. En d'autres termes, l'idée était évidemment que le titre ne devait pas survivre strictement au moyen des seuls moyens publics. D'ailleurs, ce n'était pas notre intention, donc on trouvait que les conditions qui étaient posées par la communauté française n'étaient pas illégitimes, puisque nous-mêmes, on est contre l'idée que l'argent de la collectivité doit être jeté par les fenêtres, évidemment. Donc, ce que nous avons fait sur ces bases-là, c'est que nous avons négocié avec nos créanciers pendant environ 2 mois et demi pour aboutir, d'une part, à réduire l'endettement d'environ 23 millions à environ 6 millions. Donc c'est un résultat déjà qui est tout à fait considérable et exceptionnel, puisque on a dû faire ça sans être un grand groupe. Donc c'est vraiment de nos seules forces que nous avons dû mener cette négociation, d'une part. Alors d'autre part, nous avons élaboré un plan de relance qui prévoit donc de revenir à l'ancienne formule plus ou moins du journal du mardi, c'est-à-dire la couleur, l'ancien format, etc., mais avec un contenu qui se rapproche plutôt du journal du samedi. Donc c'est un peu, si on peut dire, tirer la leçon de nos différentes expériences et par ailleurs bénéficier d'un nouveau système de production qui diminue les coûts. Et donc tous ces éléments-là, associés donc à un plan de relance qui dépend beaucoup moins des revenus publicitaires que précédemment, nous permet d'avoir quelque chose de crédible et nous a permis en particulier donc de récolter déjà dans l'immédiat 9 millions de capitaux privés nouveaux et par ailleurs d'engager une procédure qui a toutes les chances d'aboutir d'après les contacts que nous avons eus jusqu'ici auprès de la SRIB pour que celle-ci investisse sous différentes formes environ 10 millions de francs également dans l'opération. Donc au bout du compte, ce qu'on a déposé entre les mains du cabinet Miller, le ministre de l'audiovisuel de la communauté française, c'est un plan de relance où l'endettement est ramené pour ainsi dire à zéro, où 19 millions de capitaux nouveaux ont été trouvés et où en particulier la dépendance donc des recettes publicitaires est beaucoup diminuée de beaucoup.
Donc là, vous aviez rempli la condition. Qu'est-ce qui s'est passé après?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que comme ces conditions étaient effectivement remplies, le ministre a fait examiner le dossier par le service juridique et par l'inspection des finances. Ces deux institutions ont donné un avis favorable, à la fois sur le projet de subsidiation et sur le projet du journal. Et donc, ça a débouché sur un projet d'arrêté de gouvernement, parce que ce n'est pas le ministre qui décide tout seul, c'est le gouvernement qui prend un arrêté. Un projet d'arrêté de gouvernement qui nous octroyait le montant demandé pour l'année 2001, mais qui regroupait aussi une partie par rapport à l'année 2000, puisque notre demande au départ était introduite en novembre 2000. Donc nous octroyons un montant de 15 millions. Cet arrêté, donc, avec l'avis favorable de l'inspection des finances, c'est quand même un élément très important, puisque ça n'était plus arrivé en aide à la presse depuis plus de 10 ans. Donc ce projet d'arrêté était déposé à l'ordre du jour du gouvernement du 5 avril donc de cette année. Et là, coup de théâtre de dernière minute, puisqu'au dernier moment, une personnalité bien connue des étudiants de l'ULB, à savoir le ministre-président de la communauté française, M. Hervé Asquin, a décidé de retirer le point de l'ordre du jour sans explication officielle, quelle qu'elle soit.
Officieuse peut-être?
Alors effectivement, donc nous n'avons jamais pu connaître la justification de ce retrait de dernière minute. En revanche, il nous a été communiqué que le point pourrait être réinscrit à l'ordre du jour, pour autant que nous produisions deux attestations, l'une émanant du Parti écolo, l'autre du Parti socialiste, comme quoi ils soutenaient le projet d'arrêté, nous octroyant donc cette aide à la presse.
Mais d'un autre côté, si le gouvernement prend la décision, c'est pas comme si on avait une attestation. Enfin, c'est un peu bizarre comme, comme exigence, non?
C'est à moitié bizarre, parce qu'il faut savoir que la position des ministres écolos et du Parti socialiste au gouvernement de la communauté française, au départ, était négative. Et donc, il a fallu mener des tractations avec eux pour arriver effectivement à ce que M. Di Rupo, au nom du Parti socialiste, et M. Baudouin, au nom d'écolo, prennent par écrit une position de soutien à l'octroi de l'aide à la presse au journal. Donc, ça n'a pas été facile, en fait, à ce niveau-là non plus. Et au départ, évidemment, c'est cet argument-là qui avait été utilisé par M. Asquin pour bloquer le projet. Bon, il faut savoir que c'est apparemment une opposition assez ancienne, puisque déjà au moment où la première fois l'aide à la presse avait été octroyée, il avait également posé un certain nombre de problèmes.
Et donc là aussi, vous satisfaites à la condition posée, qu'est-ce qui se passe ensuite?
Eh bien, effectivement, la saga ne s'est pas arrêtée de façon aussi simple, puisque, évidemment, entre-temps, les mois passent. Et c'est vrai que nous avions des accords avec nos créanciers, mais que nos créanciers, qui patientent déjà depuis un certain nombre de mois, ils reçoivent une lettre du ministre comme quoi tout sera réglé le 5 avril, puisque le ministre nous avait écrit qu'il proposait 15 millions, qu'il l'inscrivait à l'ordre du jour et que donc on pouvait l'espérer très rapidement. Et cette promesse reste sans suite pendant plus d'un mois. Et donc certains créanciers se sont impatientés. L'un d'entre eux a pratiqué une saisie immobilière sur les biens donc de l'éditeur, qui nous a contraints à déposer une requête en concordat judiciaire. Et donc nous étions dans la situation, nous avons dû nous présenter devant le tribunal de commerce en disant, ben voilà, nous avons un plan de relance qui est réalisé à 90%, mais il manque un élément, c'est la décision de la communauté française. Un point avait été inscrit à l'ordre du jour, mais il a été retiré en dernier moment. Nous avons satisfait à toutes les conditions, mais on attend. Là-dessus, nous avons, comment dire, une réunion avec, je dirais, le gratin PRL de la communauté française, mais également d'autres niveaux de pouvoir, puisque c'est une réunion qui regroupait donc les chefs de cabinet du ministre de l'Audiovisuel, M. Miller, mais également du ministre-président, M. Asquin, de M. Ducarme, président du PRL, et du vice-premier ministre, Louis Michel, au terme de laquelle il est apparu que, bon, même au niveau du PRL, il n'y avait pas d'obstacle de principe et qu'il suffisait que M. Asquin inscrive le point à l'ordre du jour en tant que ministre-président. Et de fait, il nous fut dit que le point serait inscrit à l'ordre du jour de la séance du 31 mai du gouvernement de la communauté française. Alors évidemment, c'était quelque chose de tout à fait indispensable parce que le tribunal nous avait dit quelques jours auparavant, écoutez, nous on veut bien reporter l'audience d'une semaine jusqu'au 31 mai, donc c'est le jour où effectivement le gouvernement de la communauté se réunit chaque semaine, le jeudi. Mais, et on veut même organiser une audience spéciale pour vous à 15 h, mais il faut que vous veniez avec une décision du gouvernement, parce que comme M. Miller a déjà promis une fois qu'il y aurait une décision, on ne va pas se contenter d'une seconde lettre. Alors arrive le 31 mai et la réunion du gouvernement de la communauté française, et en fait de décision, ben, nous ne recevons pas de décision, nous recevons à 15 h, c'est-à-dire au moment où le tribunal se réunit, un fax nous disant, ben voilà, on est désolé, mais la décision n'a pas pu être prise aujourd'hui, elle sera prise la semaine prochaine. Et donc, le gouvernement prenait déjà un premier risque de nous voir mis en faillite immédiatement et que le concordat soit refusé.
Et on était conscient aussi.
On était conscient parce que nous avions bien écrit un long courrier la veille au ministre-président Asquin pour lui expliquer l'urgence de la situation en termes de calendrier. Puisqu'à l'époque, il était clair que le subsidie serait octroyé. Je veux dire, il n'y avait plus d'obstacle de principe, bien évidemment. Et donc, le 31, nous recevons ce report. Le tribunal, lui, nous avait avertis et a dit, bon, écoutez, il n'y a rien à faire. Le plan de relance ne réunit pas tous les éléments constitutifs qu'il annonce lui-même. Par conséquent, nous devons refuser le concordat. Et nous refusons le concordat. Séance tenante. Normalement, en droit commercial, ça signifie aussi que le tribunal de commerce doit prononcer la faillite. parce que si on n'a pas le concordat, ça signifie qu'on est en état de faillite. Mais à titre exceptionnel, le tribunal a considéré que comme 90% du plan de relance était réalisé et que seulement la décision de la communauté française manquait, compte tenu des capitaux privés réunis, etc., qu'elle suspendait sa décision de déclaration de faillite et nous donnait la possibilité donc de revenir la semaine suivante avec une décision du gouvernement de la communauté française, puisque M. Miller disait simplement, voilà, malheureusement, on n'a pas pu décider cette semaine-ci, mais ce sera décidé la semaine prochaine. Et que se passe-t-il la semaine suivante? Eh bien, nous recevons un nouveau fax du collaborateur de M. Miller, nous apprenant que M. Miller était à la Biennale de Venise et que donc il ne pouvait pas se rendre au gouvernement et que donc il ne pouvait pas défendre le point et que donc nous n'aurions pas non plus de décision ce jeudi-là. Donc pour la deuxième fois, le gouvernement de la communauté et M. Miller en particulier prenait le risque donc d'une déclaration de faillite alors qu'il avait déjà fait patienter le tribunal pendant 2 semaines. Ce courrier évidemment a fait l'objet d'une transmission au tribunal. Je crois que le tribunal a vu venir la chose, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu. Je dirais faire le ménage à la place du gouvernement, parce que je crois qu'ils ont quand même eu le sentiment que le gouvernement peut-être se défaussait un petit peu en espérant que le tribunal, en nous déclarant en faillite, règle le problème différemment. Et donc, il n'y a pas de décision de faillite ni de fixation en faillite qui est intervenue. Et nous nous sommes retrouvés donc devant un nouveau report jusqu'à la semaine dernière, c'est-à-dire le jeudi 14 juin. Et là encore, donc, nous espérions tout simplement que le point passerait avec retard, mais passerait. Or, qu'est-ce qui se passe 2 jours avant la décision? Nous apprenons que le ministre Miller, lors de la réunion d'intercabinet, qui précède toutes les réunions du gouvernement, M. Miller n'a pas présenté une note nous octroyant le montant de 15 millions, mais a tourné casaque au dernier moment et a donc présenté un projet de décision refusant purement et simplement la demande d'aide. Ce qui est évidemment tout à fait surréaliste, puisque un même dossier à 1 mois d'intervalle, sur base d'une motivation totalement contradictoire, évidemment, conclut dans un premier cas avec l'aval du ministre de l'Inspection des Finances à l'attribution de l'aide à la presse, et dans le second cas conclut au refus de l'aide à la presse. C'est évidemment surréaliste, mais donc nous avons été confrontés à ça. Suite à quoi nous avons envoyé un courrier encore à M. Miller et nous avons organisé une conférence de presse le jeudi matin, qui était le jour de réunion en fait du gouvernement de la communauté française. Pour la petite histoire, nous avons organisé cette conférence de presse à 10 h du matin et fait tout à fait exceptionnel. Le ministre-président, M. Asquin, a demandé que la réunion du gouvernement soit avancée à 8 h 15, ce qui est quand même très matinal. Et donc la décision de refus était prise avant même la conférence de presse, ce qui effectivement avait sans doute pour avantage d'éviter que la pression exercée sur les partenaires de la majorité aboutisse à changer évidemment la position des uns et des autres.
Donc là, a priori, c'est fichu, l'aide à la presse, vous l'aurez pas. Compte tenu de ce que représente l'aide à la presse, de ce à quoi elle sert, c'est finalement le côté, et aussi le côté sympa et positif des contacts que vous aviez eus tout au long des négociations avec le cabinet de Miller. Tout ça paraît assez surréaliste, non, surtout comment dire, l'inadéquation de la décision par rapport à ce que doit être l'aide à la presse.
Mais oui, parce que en fait, cette décision est choquante à la fois dans le fond et dans la forme. Dans le fond, faut-il le rappeler, l'aide à la presse, c'est quoi? Ce sont des montants qui sont rétrocédés par les chaînes publiques et privées de radio et de télévision et qui sont ce qu'on appelle compensatoires de l'introduction de la publicité dans ces institutions, justement, parce qu'on a considéré à un certain moment, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années environ, que s'il y avait de la publicité dans les moyens audiovisuels, cela diminuerait les montants publicitaires accordés à la presse écrite et que ça posait un problème économique. Donc, en d'autres termes, le fait que nous demandions l'aide à la presse pour compenser des faiblesses de recettes publicitaires, c'est évidemment tout à fait logique et dans l'esprit du décret qui organise l'aide à la presse. La seconde chose, c'est que ce décret prévoit également, le seul deuxième critère qui existe au niveau de l'attribution de l'aide à la presse, c'est que cette aide à la presse est destinée à sauvegarder et développer la pluralité d'opinions le pluralisme de la presse écrite. Et à ce titre, évidemment, nous qui nous revendiquons, journal d'opinion, journal un peu différent et surtout engagé, en tout cas sur le plan politique, même si nous n'affichons pas d'appartenance à un mouvement ou à une idéologie particulière, ben, on était évidemment le cas d'école, si j'ose dire, d'entreprises de presse qui devaient être soutenues, évidemment, au titre de l'aide à la presse, puisque les autres grands groupes qui reçoivent de l'argent, d'une part, ont beaucoup de recettes publicitaires et d'autre part, bon, parfois représentent un élément important du pluralisme d'opinion, et je crois d'ailleurs qu'ils le représentent tous en fait, mais nous, a fortiori, en tant que seule création de titres de presse depuis 10 ans, on pouvait le justifier. Ça, c'est sur le fond. Il y a une deuxième raison de fond, c'est qu'au niveau du droit européen, et même au niveau du droit belge, l'égalité des Belges devant la loi, il était tout à fait clair que il est tout à fait illégitime que d'autres acteurs du marché de la presse d'information générale reçoivent de l'aide et que nous n'en recevions pas. Parce que c'est, au niveau strictement commercial, c'est une distorsion de concurrence, bien évidemment. Et qui plus est, ici, une distorsion de concurrence qui profite aux grands groupes de presse et qui sont actuellement, dans la plupart des cas, des grands groupes financiers. Puisque il faut savoir que si nous ne recevons pas les fameux 15 millions, non seulement nous n'en bénéficions pas et ça nous met en faillite, mais de surcroît, ces 15 millions seront distribués aux grands groupes de presse. C'est quand même le comble. Donc ça, c'est la deuxième raison de fond. D'ailleurs, c'est ce qui fonde un des recours dont nous allons peut-être parler par après. Alors, au niveau de la forme, évidemment, c'est encore plus choquant, puisque le ministre de l'Audiovisuel, le ministre-président de la communauté française, ou le gouvernement de la communauté française décide, pour n'importe quelle raison, bonne ou mauvaise, de nous refuser l'aide à la presse, c'est une chose. Ça nous ouvre la voie à un certain nombre de recours, et ça nous permet par ailleurs d'imaginer, parce que nous avons après tout fonctionné sans un franc de subside pendant plus d'un an, d'imaginer donc un plan d'alternatif nous permettant de repartir peut-être sur des bases différentes. C'était en tout cas possible. Mais ici, il faut savoir que le gouvernement et le ministre nous ont fait lanterner pendant 7 mois. 7 mois au cours desquels nous a été demandé de satisfaire successivement à un ensemble de conditions, dont d'ailleurs la plupart étaient illégitimes, mais que nous avons remplies quand même. Et à l'issue de ces 7 mois, pour nous dire à 2 jours de l'échéance, alors qu'on nous a fait croire jusqu'au bout, et que nous avons fait croire à nos créanciers, et qu'on a fait croire au tribunal de commerce, que cette décision était de 15 millions, qu'elle était imminente, etc., que la décision était une décision de refus. Donc, on est dans l'arbitraire le plus complet, on est dans le fait du prince, et de surcroît, ici, l'autorité publique non seulement prend une mauvaise décision, mais la prend d'une façon telle qu'elle porte un préjudice maximal, et en l'occurrence mortel, au destinataire de la décision, c'est-à-dire au titre de presse. En d'autres termes, la façon dont on prend la décision, en plus, aboutit à nous tuer. Puisque, en fait, nous sommes actuellement donc en situation de faillite, on est dans le cadre d'une procédure en concordat qui a déjà été refusée. Il est impossible que dans un délai de quelques jours, puisque la décision a été prise la semaine passée et l'audience devant le tribunal de commerce est la semaine prochaine, que nous puissions élaborer un nouveau plan de relance avec des investisseurs qui approuvent ce plan de relance, des créanciers qui l'approuvent, etc. En d'autres termes, on nous a tirés jusqu'à un point où nous ne pouvons plus nous retourner et où la faillite est, de ce point de vue-là, inéluctable.
Tout ça pour vous dénote une évidente mauvaise foi et vous allez même jusqu'à parler sans hésiter de censure politique, même document à l'appui.
Oui, parce qu'en fait, ce sont les documents donc, que nous avons pu obtenir et publier donc aujourd'hui, à savoir les deux notes qui sous-tendent, d'une part, la première décision du ministre qui était donc de proposer un arrêté de gouvernement nous octroyant 15 millions, et d'autre part, une seconde note où il propose au gouvernement de nous refuser les 15 millions. Alors, ce qui est évidemment tout à fait cocasse, c'est que ces deux notes sont prises sur base du dossier que nous avons présenté en mars, donc qui est le même dossier. Et que par rapport aux mêmes éléments, la note défend une solution exactement inverse. Alors, évidemment, c'est tout à fait impossible pour n'importe quel être rationnellement constitué, et ça démontre, je ne peux pas l'expliquer ici, ce serait un peu long, mais ça démontre tout à fait clairement qu'on est devant un cas, je dirais tout à fait clair, d'arbitraire politique. Et c'est pour ça que nous parlons de censure politique, parce qu'évidemment, aucune justification légale, aucune justification économique, ne peut être apporté à ce revirement. D'ailleurs, le ministre, dans aucune de ses notes, n'explique ce revirement, le gouvernement pas davantage. Le seul motif qui existe, c'est bien la décision politique, et en l'occurrence, c'est bien l'arbitraire politique, puisqu'il n'y a pas. C'est un détournement de pouvoir, si vous voulez, parce que quand on a le pouvoir, c'est une chose, on a un pouvoir discrétionnaire, ce qui est le cas, c'est autre chose, mais même quand on a un pouvoir discrétionnaire, il faut l'exercer, je dirais, de bonne foi et en fonction des critères de la loi, malgré tout. Donc, c'est un cas de censure politique, et ce qui est absolument effarant, c'est non seulement qu'apparemment, le gouvernement de la communauté française le fasse sans état d'âme particulier. Et j'ai envie de dire tout de même que même si nous avons eu le soutien d'Écolo et du PS, il n'y a pas eu de protestation bruyante par rapport à cet état de fait. Mais de surcroît, aussi dans un silence médiatique par ailleurs qui est assez assourdissant, puis hormis la RTBF à ce stade, et dans une moindre mesure la Libre Belgique, c'était le silence radio et écrit total sur cette question. Et donc, effectivement, nous n'hésitons pas à parler soit d'une censure politique, soit, et l'un n'excluant pas l'autre, d'une volonté tout à fait délibérée et sournoise d'éliminer un concurrent, peut-être un concurrent d'entreprises de presse qui sont peut-être plus amis que nous avec le pouvoir politique du moment.
Devant ce blocage total, vous utilisez les armes que vous avez, qui ne sont pas négligeables. En l'occurrence, il s'agit d'un recours devant la Commission européenne pour aide illégale et distorsion de concurrence, et tout ça.
Oui, effectivement. Donc, ce que nous avons fait, c'est que, comme nous l'avions annoncé, parce que faut savoir que la question de la distorsion de concurrence avec les autres groupes de presse, bon, quelle est cette distorsion? C'est bien simple. On est tous sur un même marché qui est l'information générale. Soit les autres hebdos qui en font, comme par exemple le Soir Magazine, qui reçoit de l'aide via Rossel en tout cas, puisque c'est le groupe Rossel qui reçoit l'aide à la presse dans sa globalité, soit la Libre Hebdo, soit, comment dire, par le passé évidemment, c'était l'Instant et c'était la Cité. Mais donc ces groupes reçoivent de l'aide, sont sur le même marché que nous, et nous ne recevons pas d'aide. Ça signifie tout simplement que nous sommes véritablement discriminés. Et en l'occurrence, c'est d'autant plus vrai que ces groupes-là ont tout de même des recettes publicitaires assez considérables parce qu'ils sont perçus comme étant plus consensuels, tandis que nous, qui nous voulons un journal de débat, nous suscitons une certaine méfiance manifestement du monde publicitaire, et donc nos recettes publicitaires ne sont pas inexistantes, mais elles sont moindres. Voilà. Alors, cette distorsion de concurrence, c'est donc quelque chose qui est fondamentalement en violation du droit européen, puisque vous savez comme moi que l'Europe se fonde actuellement sur une libéralisation des échanges, et que dans le cadre de cette libéralisation des échanges, c'est la contrepartie, si on peut dire, il n'est pas permis aux États membres, évidemment, de trucider le voisin, si j'ose dire, en octroyant des aides, que ce soit à l'industrie de la chaussure ou au saucisson ou à n'importe quoi, qui soit de nature évidemment à couler les adversaires, les concurrents, si j'ose dire, sur un même marché. Or ici, c'est ce qui se passe, c'est qu'il y a une aide donc, qui est attribuée à certains et pas à d'autres, sans critères valables, et par conséquent, effectivement, c'est une violation flagrante du droit européen.
Par rapport à ça, les implications d'une plainte peuvent être énormes. C'est un peu une bombe atomique, non?
Effectivement, puisqu'il faut savoir que le dépôt d'une plainte auprès de la Commission a pour effet que la Commission ouvre un dossier et instruit. Alors, jusqu'ici, la Commission aurait pu le faire de sa propre initiative. D'ailleurs, la Commission a déjà communiqué à plusieurs reprises à la communauté française sa préoccupation par rapport au côté arbitraire et purement politique du système actuel. Parce qu'il faut quand même savoir, je fais une incise, mais il faut quand même savoir que nous avons un entretien avec les représentants des éditeurs de presse journalière, donc les éditeurs de journaux, qui nous expliquent que chaque année, ils doivent faire un lobbying intense pour le montant de chaque journal individuellement. Ce qui veut dire que d'une année à l'autre, ils peuvent être amputés de 20 ou de 10 millions d'aides à la presse. Vous vous imaginez à quel point cet arbitraire, évidemment, politique peut peser sur la politique rédactionnelle, évidemment, je n'ose l'affirmer, mais on peut le craindre, des différents journaux concernés. Donc, en d'autres termes, les éditeurs de journaux, en réalité, en tout cas certainement les rédactions, sont tout à fait demandeuses aussi qu'on change le système arbitraire, etc. Mais donc, pour revenir comment dire, à nos oignons, ce qui se passe, c'est que au niveau de la Commission européenne, elle n'est pas intervenue jusqu'ici parce qu'il n'y avait pas de parti préjudicié. Et c'est vrai que c'était un peu un casus belli par rapport à la Belgique que d'aller elle-même soulever ce problème, même si c'est un problème extrêmement difficile. Mais à partir du moment où ici, il y a un ensemble de personnes qui sont des investisseurs, des journalistes, des salariés, qui perdent ensemble environ une quarantaine de millions dans cette aventure, si jamais la société va volo à cause justement d'une distorsion de concurrence, d'une discrimination, mais il est clair que la Commission ne pourra pas faire autrement que d'intervenir. Et là, il y a deux conséquences. Il y a une conséquence pour l'avenir, et pour le présent, c'est que la Commission ne pourra pas faire autrement que de constater que le système actuel d'aide à la presse contrevient à tous les principes, non seulement européens, mais également de droit belge d'ailleurs, je dirais de bonne administration et d'égalité des Belges devant la loi belge et des concurrents devant la loi européenne. Et par conséquent, la Commission ne pourra pas faire autrement que d'enjoindre la Belgique, sanctions le cas échéant à l'appui, parce que la Commission peut, je dirais, imposer des amendes qui peuvent être extrêmement lourdes. Donc, va enjoindre la Belgique de supprimer son système d'aide à la presse tel qu'il existe. Et dans, si elle accepte la chose, ce qui n'est pas d'ailleurs évident, d'enjoindre la Belgique de définir un nouveau système qui soit compatible, je dirais, avec une égalité des différents opérateurs économiques devant la loi.
Il y a aussi de fortes chances que la décision soit rétroactive, ce qui implique un remboursement.
Ça, c'est la deuxième conséquence, effectivement, c'est pour le passé, et c'est ça, effectivement, la bombe atomique que vous évoquiez, à savoir que la Commission, si elle constate qu'un système est illégal, et qu'en plus, il n'a pas été notifié. Ça, c'est la technique juridique, mais il faut bien l'expliquer parce que ça a des implications effectivement incalculables. En fait, quand un État membre élabore un système d'aide, quel qu'il soit, que ce soit Marie-Belle ou que ce soit effectivement l'aide à la presse, il doit en avertir la Commission. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe d'interdiction des aides d'État, donc des subsides dans l'Union européenne. Les exceptions sont admises, mais la contrepartie de ces exceptions, c'est qu'on doit prévenir la Commission avant que le système entre en vigueur, de manière à ce que la Commission puisse dire « attention, là, vous risquez de contrevenir aux règles et donc d'apporter une distorsion dans le marché ». Donc ici, ça n'a jamais été notifié. Et la sanction de ce défaut de notification, c'est quoi? C'est qu'effectivement, j'ai envie de dire de façon quasi automatique, la Commission exige à ce moment-là de l'État membre qu'il postule le remboursement de toutes les aides perçues en vertu du système illégal ou du système qui n'a pas été notifié. En Belgique, ça représente plusieurs milliards de francs, qui seraient donc à ce moment-là payés par les groupes de presse. Il est clair que, bon, on peut croire que ce serait peut-être injuste de demander un tel remboursement. Ce n'est pas du tout vrai parce que, évidemment, s'il y a cette intervention rétroactive, c'est parce que si il n'y avait pas ce remboursement, ben, il suffirait aux États membres, je dirais, d'élaborer un système tout à fait illégitime, tout à fait illégal, de ne pas en parler à la Commission et de mettre la Commission et les concurrents devant le fait accompli. Et donc, ce remboursement est évidemment un élément fondamental de l'effectivité du droit européen. Et donc, en l'occurrence, ça voudrait dire que tous les groupes de presse devraient s'attendre à devoir rembourser ces sommes. Et dans l'attente de les rembourser effectivement, quoi qu'il arrive, devraient commencer à provisionner les montants en question dans leur compte annuel. Rien que ça, ce serait terrible, puisqu'ils devraient effectivement provisionner ces montants, ce qui signifie fragiliser leur compte, être systématiquement pendant un certain nombre d'années en déficit, rien que du fait qu'ils doivent s'attendre à rembourser quand même des sommes importantes. Pour certains groupes, ça peut avoisiner le milliard.
Bah, finalement, en fait, vous logez tout le secteur à la même enseigne. Comment est-ce qu'on peut expliquer à ce moment-là le manque de solidarité affichée de la part du reste de la presse? Vous êtes dans le même bateau, quoi.
Écoutez, je crois que c'est un phénomène qui est propre à la Belgique. C'est que en Belgique, on a l'habitude que tout s'arrange toujours, hein, et que, en particulier, au plus un problème ou une illégalité est grosse, au plus on va trouver une solution. Et donc, je crois que l'acception commune, finalement, de tous les acteurs de ce dossier, c'était de dire, bon, c'est un dossier tellement incroyable, on n'imagine pas qu'on demande le remboursement au groupe de presse, etc. Mais donc, c'est clair que, de toute façon, ces petits mecteux, si j'ose dire, qui osent ici remettre en question le système, ça n'est pas possible, de toute façon, c'est inimaginable, en substance. Le seul élément nouveau dans ce dossier qui commence seulement à pénétrer les esprits, que ce soit au niveau politique ou au niveau économique, c'est qu'ici, on arrive au niveau européen. Et que ce qui est un gros dossier au niveau belge est un dossier tout à fait négligeable, évidemment, au regard de la dimension européenne, et qu'il faut bien s'imaginer qu'à aucun moment la Commission ne pourrait prendre une décision par rapport à un problème belge qui aurait des conséquences incalculables au niveau de l'Europe entière. C'est-à-dire que si la Commission admettait ce genre de situation en Belgique, il est clair que demain, ce sont les Italiens ou les Irlandais qui commenceraient à faire la même chose, et ça signifierait tout simplement que la politique de concurrence dans l'Union européenne serait mise par terre du jour au lendemain. Donc ça, c'est évidemment tout aussi inimaginable. Et donc, ce qui se passe actuellement, c'est que je crois que dans un premier temps, les groupes de presse peut-être ont joué le mépris en quelque sorte par rapport aux petits nouveaux que nous sommes. C'est vrai que tant dans le monde économique que dans le monde publicitaire. C'est un peu le même phénomène. Comme on n'est pas habitué à ce type d'initiative, que de départ une initiative de citoyens, puisque le journal du samedi était créé par des individus, ben c'est clair que ça suscite un certain étonnement, peut-être une certaine méfiance, et que tout simplement ça n'entre pas dans les schémas classiques. Et donc il faut un certain temps pour prendre conscience du fait que ben, c'est pas parce qu'on n'est pas un grand groupe de presse qu'on n'a pas des droits. Et de notre point de vue, il est tout à fait clair qu'on voit mal pourquoi nous devrions sacrifier l'argent de nos investisseurs, de nos salariés, de nos employés, de nos journalistes, de nos fournisseurs, au bénéfice de grands groupes de presse qui apparemment, en tout cas jusqu'il y a peu, ne prenaient pas ce problème au sérieux.
On peut l'aimer ou pas, mais Richard Miller n'est sans doute pas un imbécile. Il est quand même conscient un peu des implications de ce dossier. Pourquoi est-ce que jusqu'au bout, il a refusé?
Écoutez, je crois que M. Miller est une chose, mais je crois qu'il n'est pas seul en fait dans ce dossier. Bon, je crois qu'il n'y avait pas nécessairement d'enthousiasme non plus. Au départ, au niveau des partenaires écolos et PS du gouvernement, parce que tout simplement, je crois que bon, on était une presse véritablement indépendante, c'est-à-dire que on essayait d'être critique, mais de façon objective vis-à-vis de tous les partis. Donc, on a un peu embêté tout le monde, il faut le reconnaître, à différents moments. Et peut-être qu'effectivement, ben, disons que quand on est dans la majorité, on préfère d'avoir une presse qui est peut-être moins polémique que nous l'avons été à certains moments. Maintenant, M. Miller n'est pas seul donc dans ce dossier, puisque c'est vrai que le PS et Écolo, entre-temps, se sont ravisés et nous ont apporté un soutien écrit et avéré. Mais il faut savoir que le blocage est venu effectivement au sein du PRL, essentiellement du ministre-président Asquin. Bon, je parle ici à Radio Campus, donc je suppose qu'il y a un certain nombre d'auditeurs quand même qui doivent être des étudiants ou des anciens étudiants de l'ULB comme moi-même. Et bon, ceux-là sauront que M. Asquin, parfois, effectivement, a des idées extrêmement arrêtées sur un sujet. Et voilà, nous, ce que nous espérons, nous avons fait un maximum de bonne volonté. Et nous espérons que tant, je dirais, le souci d'être à la hauteur, je dirais, de la dignité, de la charge de ministre-président qu'il a à la communauté française et qui implique une certaine impartialité, que le souci plus personnel qui devrait être le sien de libre-examinisme, qui implique non seulement qu'on traite tout le monde de façon honnête et non discriminatoire, mais qui de surcroît devrait en fait favoriser une presse de débat, une presse d'opinion. Nous espérons tout simplement que, après avoir reconsidéré le dossier peut-être de façon plus attentive et surtout après avoir pris en compte les conséquences extrêmement dommageables pour l'ensemble de la presse belge de la position actuelle, M. Asquin et M. Miller vont reconsidérer leur position.
Oui, parce qu'en fait, on n'a pas encore atteint le point de non-retour. Il y a toujours moyen de revirer. La faillite n'est pas prononcée.
Non, elle n'est pas prononcée, mais donc elle est prévue pour lundi si rien ne se passe. Or, il y a une dernière réunion du gouvernement jeudi, avant donc le lundi fatidique. Et nous, par ailleurs, donc, nous avons fait appel au service d'un conseil, évidemment, puisque nous engageons des procédures légales, judiciaires, qui est donc Maître Misson, qui est la personne qui déjà s'est faite un nom en droit européen, puisque également, un peu seul contre tous, au départ, il a obtenu un arrêt très important à la Cour de justice en matière footballistique, qui est l'arrêt Bosman. Donc il connaît un petit peu ce genre de situation. Et donc nous avons dès ce jour déjà, enfin dès hier en fait, introduit un recours devant le Conseil d'État, qui est en fait une requête en extrême urgence. Nous attendons une décision encore cette semaine, donc avant l'audience devant le tribunal de commerce. Donc une requête en suspension qui vise donc la décision de refus du gouvernement. Et nous demandons également des mesures provisoires, qui est donc le cantonnement, enfin c'est un terme technique, mais en tout cas le blocage d'une somme, en tout cas au bénéfice du journal, sur un compte qui n'appartient pas au journal, mais qui serait donc là de manière à rassurer le tribunal de commerce. Nous insistons aussi sur ce recours parce que devant le Conseil d'État, parce que ça nous permettrait d'avoir déjà très vite une appréciation d'un tiers, outre nous-mêmes et notre avocat, sur la légalité de ce qui a été fait jusqu'ici. C'est quand même important. La deuxième chose, c'est que nous avons donc annoncé que nous maintenons avec d'autant plus de force notre intention de déposer une plainte auprès de la Commission européenne encore cette semaine. C'est-à-dire, à partir du moment où on devrait constater qu'effectivement la Commission française reste totalement sourde à notre supplique, reste sourde à nos arguments, reste sourde à nos droits. Et disons que nous sommes évidemment d'autant plus déterminés à déposer ce recours que il apparaîtrait sur les entrefaites qu'en fait les autres collègues de la presse écrite audiovisuelle, je dirais, ne seraient pas solidaires de notre problème, puisque je crois qu'il faut tout de même être conscient que ici c'est un cas d'arbitraire politique caractérisé. Je crois que ce soit en tant qu'homme politique ou que ce soit en tant que journaliste ou même éditeur d'ailleurs, on ne peut pas, véritablement, on ne peut pas permettre, laisser passer ce genre de choses, parce que je crois que ça met, dans un état de droit, ça met tout le monde en danger que de laisser passer ce genre d'arbitraire politique, ce genre de censure en l'occurrence, puisqu'il s'agit d'un titre de presse. Et je crois que personnellement, il y a des petites lâchetés qui peuvent avoir des conséquences incalculables pour la suite, non seulement ici pour la presse belge, parce qu'on a entendu un recours, mais indépendamment de ça, même dans le contexte démocratique dans lequel on vit, on ne peut pas tout simplement admettre qu'un opérateur économique et un opérateur, je dirais, du monde intellectuel de notre pays, en communauté française, qui n'en compte déjà plus tellement, puisque chaque année connaît son lot de disparitions, on ne peut pas admettre, je crois, qu'on laisse partir comme ça un titre de presse.
Dévaste-moi, essouffle-moi, envahis-moi, pille-moi, dépense-moi, gaspille-moi. Saccage-moi, dilapide-moi, lapide-moi, érape-moi, liquide-moi, émiette-moi. Ravage-moi, et presse-moi, et puis broie-moi, et puis noie-moi, et puis bois-moi, et caille-moi. Colonise-moi, piétine-moi, déglutis-moi, extermine-moi, ravage-moi, délabre-moi. Ratisse-moi, corrode-moi, démantèle-moi, désintègre-moi, massacre-moi, écrabouille-moi.
Pour terminer cette émission, quelques nouvelles de L'Île au Soleil, le squat artistique de la rue des Chevaliers à Ixelles, dont je vous parlais il y a 3 semaines. Les occupants attendaient alors l'expulsion d'un moment à l'autre, mais ils étaient décidés à ne pas se laisser faire. Une première tentative d'expulsion a eu lieu jeudi dernier, mais elle s'est soldée par un échec, comme nous l'explique Jérémy Mosseret, un des habitants de L'Île au Soleil.
Finalement, elle a eu lieu, cette fameuse expulsion, jeudi dernier, c'est-à-dire le combien?
14.
Le 14. Est-ce que tu peux expliquer comment ça s'est passé, en gros?
Mais d'abord, elle n'a pas eu lieu. Enfin, on est toujours là,
La
donc
tentative a eu lieu.
la tentative a eu lieu. En gros, nous avons mobilisé des gens. Dès le matin, il y avait une centaine de personnes devant la maison. Et lorsque l'huissier est arrivé, bon, ils ont essayé de faire comprendre qu'il ne fallait pas qu'il rentre dans la maison, mais il est quand même rentré. Bon, ils sont rentrés à quelques-uns. Ils ont essayé de nous déloger, mais on était au troisième étage, bien bien barricadés, bien enfermés, donc ils n'ont pas su rentrer.
Lucie n'était pas tout seul, il y avait aussi, il était accompagné d'un certain nombre de policiers, mais malgré ça, il n'y a pas vraiment eu de tentative d'expulsion par la force, ils n'ont pas mis les grands moyens, quoi.
Non, ils n'ont pas mis les grands moyens, ils n'ont pas envoyé les lacrymos ni les chiens. Mais ça, bon, c'était aussi une volonté un peu de la commune de ne pas trop faire de bruit autour de ça. Ça ne veut pas dire que la prochaine fois, ça sera aussi calme. Bon, ici, la commune ne voulait absolument pas de violence, de choses comme ça, donc elle voulait faire ça dans le calme. Mais c'est sûr que s'il y a une prochaine fois, ça sera peut-être un peu plus différent.
Donc ils n'ont pas réussi à vous déloger. Devant ça, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Je crois qu'il y a même le bourgmestre qui est descendu sur les lieux.
Ouais, le bourgmestre est descendu sur les lieux, il s'est même fait plus ou moins prendre en otage dans l'entrée des bâtiments par les manifestants. C'était assez rigolo ça. Mais sinon, bon, ils ont décidé de reporter l'expulsion. Pour ça, on ne sait pas du tout c'est quand. Il y avait une soi-disant une décision qui était prise au collège lundi, mais en fait, il n'y a pas vraiment eu de décision. Nous avons fait une action aussi pour essayer de sensibiliser, de pousser les gens encore à rester mobilisés, etc. Et que les gens de la commune se bougent un peu plus. Mais ça n'a pas changé grand-chose. Tout ce qui se passe, c'est qu'ils vont appuyer le contrat d'occupation précaire qu'on a envoyé aux propriétaires. Ils vont l'appuyer auprès des ronds. Sinon, à part ça, il n'y a pas vraiment de changement.
Est-ce qu'il y a un peu un revirement de la part de la commune ou pas tellement parce qu'au départ finalement ils s'en foutaient complètement. Là, le bourgmestre est descendu sur place et ils ont quand même décidé d'en parler au conseil communal. On peut considérer ça comme un appui augmenté ou bien finalement ils continuent un peu à s'en foutre.
Non, un appui. Il y a eu un appui au début. Enfin, au début, il y a un mois. Ils ont sorti un communiqué de presse assez intéressant sur les nouvelles pratiques sociales, etc., etc. Et à ce moment-là, on a vraiment cru que la commune allait vraiment rentrer dans le sujet et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'expulsion, quoi. On avait crié à Victoire un peu trop vite. On s'est rendu compte qu'en fait, la police était quand même mobilisée pour l'expulsion, etc. Donc là-dessus, bon, la commune essaie de faire un peu médiateur, se disant entre Iron City et nous, mais elle pourrait vraiment appuyer et écraser.
Et donc là, ce qu'elle va faire, c'est vaguement sensibiliser Iron City à vos propositions de contrat d'occupation précaire.
C'est ça, ouais. Elle va vaguement sensibiliser, c'est ça.
Ça signifie quoi dans l'immédiat? Plus d'expulsion pendant un bon bout de temps ou bien une incertitude plus ou moins totale?
Il y a une grande peur que ça soit. On attend un mois ou deux que tout soit calme, mais en pleine grande vacances, pouf, on fait tout le monde dehors. Ça, c'est le coup classique des squats. Mais bon, on sait pas. On s'attend toujours à recevoir la police dans quelques jours. Enfin, en tout cas, nous, on est prêt à ça.
Donc la mobilisation reste nécessaire. Est-ce qu'il y aura moyen de mobiliser jusqu'au bout s'il y a plusieurs tentatives?
On verra.
Et s'il y a une nouvelle expulsion, on vous le notifie combien de temps à l'avance?
Dès que nous on est au courant, ça peut être 24 heures seulement, ça peut être 5 jours. Si jamais c'est 24 heures, on a des chaînes de téléphone pour faire passer l'information. Voilà.
Dernière chose, lors de l'expulsion, les médias étaient présents en nombre. Ils en ont parlé, à ta connaissance?
Oui, assez bien. Il y avait trois chaînes. Enfin, il y avait Télé-Bruxelles, RTBF. Et puis il y avait Le Soir, La Lanterne. Et un troisième. La dernière heure, peut-être, je pense, je sais plus.
Donc, tu as eu l'occasion de lire ou de voir ce qu'ils ont fait?
Oui, c'était pas négatif. Ouais, c'était assez positif. Ouais, on était les gentils, c'était les méchants, et voilà.
Et voilà, avant de vous quitter, il me reste quelque chose à vous signaler. D'abord, si vous avez été choqué par les violences lors des manifestations de Göteborg, et je parle évidemment des violences policières et notamment l'utilisation de balles réelles, il y a demain à 18h une manifestation devant l'ambassade de Suède qui est située aux 3 rues du Luxembourg, c'est près du métro Arlois. Pour le reste, je vous signale évidemment la rediffusion de cette émission vendredi après-midi à 14h. L'adresse du site internet www.multimania.com/alterecho avec CH en un seul mot. Les disques qui sont passés dans cette émission, c'était tout d'abord Nutbush City Limit par Ike et Tina Turner. Ça vient tout simplement d'un best-of de Ike et Tina Turner. Et ensuite, il y avait Brigitte Fontaine qui chantait Dévaste-moi, alias l'éternel féminin. Ça se trouve sur le CD Jacques Higelin et Brigitte Fontaine, 20 chansons d'avant le déluge. Voilà, à la semaine prochaine pour la dernière émission de cette saison. Merci d'être resté à l'écoute.